Les titres du journal.
Béatrice Métraux ne briguera pas de nouveau mandat au Conseil d'État vaudois. L'écologiste l'a annoncé ce matin dans l'écho du Gros de Vaud. C'est ce que nous a appris son parti dans un communiqué. Vous entendrez la ministre vaudoise dans un instant. Il y aura un recomptage des bulletins de vote demain à Blonay-Saint-Légier. Ceci a été décidé il y a quelques minutes par le préfet du district Riviera Pays d'en Haut, Roland Berdeau. Et puis un projet veut permettre aux truites lacustres de pouvoir remonter la rivière de l'Avançon du côté de Baie. L'idée est notamment de permettre aux salmonidés de pouvoir se reproduire en toute tranquillité. Les chambres fédérales ont bouclé aujourd'hui leur session d'automne. Pour certains, il s'agissait de la dernière. C'est notamment le cas de la vaudoise Isabelle Chevalet et du fribourgeois Christian Levrat. Et enfin, en course à pied, Maude Matisse renouera avec le bitume le temps d'une course dimanche. L'athlète d'Olon tentera de remporter pour la troisième fois Mora Fribourg. Ses qualités en montée font d'elle la grande favorite.
Côté météo, on aura... Côté météo, on aura du soleil aujourd'hui, une douce journée.
Et puis alors, on peut attaquer avec le journal, Philippe ?
Oui, c'est tout bon, on vous écoute, on
très
est
bien.
Tous là.
Béatrice Métraux va mettre fin à sa carrière politique. La chef du département vaudois de l'environnement et de la sécurité ne briguera pas en effet un nouveau mandat lors des élections cantonales vaudoises du printemps 2022. Bonjour Béatrice Métraux, merci d'être en direct avec nous dans ce journal.
Bonjour.
Alors, vous avez annoncé votre départ. Tout d'abord, pourquoi ?
Écoutez, j'ai eu 66 ans au mois d'août. Je vais en avoir 67 l'année prochaine. Et je pense qu'à 66 ans, il est temps que les politiciens appellent la relève de leur mouvement, de leur parti. Je pense qu'il est temps que la jeunesse des partis se mobilise. Nous avons une très belle jeunesse. Nous avons une relève tout à fait prête à travailler avec les défis qu'on a, environnementaux, sociétaux. Et je suis très fière de cette relève.
C'est donc pour laisser place justement à la relève, comme vous le dites. C'est pas une lassitude qui s'est peut-être instaurée après 10 ans au Conseil d'État ?
Non, pas du tout. Vous savez, on se lasse jamais de la politique. Jamais. Mais c'est vrai, les jeunes verts sont là. Les verts ont vraiment beaucoup de personnalités remarquables. Et je pense qu'il est temps que ces personnalités-là fassent leur travail.
Et puis alors, vous aviez succédé au dernier ministre UDC du Conseil d'État vaudois, Jean-Claude Mermoux, décédé en septembre 2011. Votre élection avait permis à la gauche de prendre la majorité au Conseil d'État vaudois. Ça, c'est ce qu'on va retenir de vous ?
Alors, je ne sais pas ce que la population vaudoise va retenir de moi, mais c'est un fait, oui. J'ai été élue le 18 décembre 2011 et effectivement, j'ai fait basculer la majorité du Conseil d'État à gauche.
Et puis alors, peu de temps après, une fois, il y a la majorité de gauche qui arrive, et puis après, votre réélection contribue à une rare majorité féminine dans un gouvernement cantonal de Suisse. Ça, c'est aussi un autre joli succès à
palmarès. Oui, c'est un très beau succès, c'est remarquable, et je suis très contente qu'il y ait toutes ces conseillères d'État, quel que soit leur parti, et nous travaillons très très bien ensemble.
Et puis alors, toujours sur votre parcours, vous avez gravi tous les échelons de la politique vaudoise, secrétaire de conseil communal, municipal, puis syndic de Botan, député, chef de groupe, conseillère d'État. C'est un sacré parcours dont vous retenez quoi aujourd'hui finalement, le plus important ?
Alors oui, c'est un sacré parcours. Et ce que je retiens, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Et que quand on a des convictions, quand on a des valeurs, ce que j'ai, il faut toujours les garder et on arrive toujours à les faire valoir d'une manière ou d'une autre.
Puis alors, avec toute cette expérience politique qu'on vient d'évoquer, si vous deviez dégager peut-être vos meilleurs souvenirs ?
Alors, les meilleurs souvenirs, c'est bien sûr les projets que j'ai fait aboutir avec l'ensemble de mes collaborateurs et puis aussi avec le Conseil d'État. Par exemple, la loi sur le logement, la réforme des curatelles, la promotion des alternatives à la détention, la promotion du bois, le plan climat surtout, le plan climat en juin 2020 avec l'ensemble de mes collègues du Conseil d'État. Ça, j'étais vraiment très heureuse de cette réalisation.
Et puis l'autre face de la pièce, les pires souvenirs peut-être ?
Ah, c'est un souvenir très triste. C'est la mort de Marie Schluchter qui a montré la faillite du système pénitentiaire. Et je me suis attelée, justement, après cette mort dramatique et cette disparition dramatique, à essayer de réformer ce système pénitentiaire, à améliorer la prise en charge des détenus et à vraiment renforcer les liens entre le milieu médical et le milieu pénitentiaire. Et ça, c'est un souvenir vraiment poignant.
Et on le sent, alors un des hauts et des bas, mais au final un engagement politique fort au service des idées et des valeurs écologistes. C'est ce qu'on l'on doit, encore une fois, retenir de vous, cette vigueur-là.
Oui, un service auprès de la population aussi. Vraiment, dans toute mon action politique, qu'elle soit communale, cantonale, et même au niveau intercantonal, moi j'ai toujours eu en toile de fond le service à la population, le bien-être de la population, parce qu'on peut aussi qualifier le bien-être de la population dans toutes les politiques publiques, qu'elles soient environnementales ou sécuritaires ou institutionnelles. Vraiment, c'est la population qui a guidé tous mes pas en politique.
Et puis, une dernière chose, vu que vous démissionnez, on suppose que vous n'allez pas rester...
Non,
vu que vous vous retirez, pardon. Voilà, vu que vous vous retirez, que vous ne vous représentez pas, on suppose que vous n'allez pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que vous allez faire à partir du 1er juillet 2022 ?
Oh, je vais faire beaucoup de choses. D'abord, je vais marcher, je vais continuer à méditer, je vais m'occuper de mes familles françaises et suisses, et puis il y a toute l'action associative et bénévole dans ce pays qui est très importante, et je mettrai mes compétences de manière humble, mais je mettrai mes compétences au service du bénévolat.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Béatrice Métraud, d'être venue avec nous pour ce journal de midi.
Merci à vous.
Vous souhaite
bonne journée à tout le monde.
Merci, au revoir. Et puis, on s'intéresse maintenant à Statistique Vaud, l'office cantonal qui existe depuis 50 ans, qui fête donc son anniversaire. Et le jubilé a été célébré hier, l'occasion d'observer la croissance du canton de Vaud en autant d'années. Certains chiffres donneraient presque le tournis, comme la croissance des pendulaires. Ils sont 10 fois plus en 2020 qu'en 1970. Mais cette croissance ne représente pas un souci pour le canton, comme l'explique Pascal Broulis, conseiller d'État chargé des finances au micro de Valérie Blum. Voilà.
Tout d'abord, il faut accompagner la croissance avec des infrastructures, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient même pénitentiaires, ensuite de formation hospitalière, donc c'est un tout. Donc là, il faut accompagner la croissance. Ensuite, la mobilité fait qu'en l'espace de 50 ans, les gens ne travaillent plus où ils habitent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui s'est passé. Tout comme, par exemple, pour mettre en statistique ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les gens étaient très stables au niveau de la cellule familiale. Aujourd'hui, la cellule familiale a beaucoup évolué. Famille monoparentale, famille recomposée, des divorces qui sont en nombre important. Alors voilà, la question de la mobilité. Aujourd'hui, notre canton a plutôt bien réparti la charge de croissance démographique. Donc ça se passe globalement assez bien. Même si en l'espace de 20 ans, on a enregistré un tiers de population en plus. On a passé de 616 000 à 820 000 habitants. Donc un tiers de plus. Mais on voit que ça s'est fait assez naturellement, sans tension. Et que les gens cohabitent entre ceux qui vieillissent et ceux qui sont en formation.
Est-ce que le fait qu'il y ait justement beaucoup de gens qui viennent travailler dans le canton de Vaud mais qui habitent pas forcément, que ce soit sur Fribourg, Valais, est-ce que pour vous ça vous fait dire, est-ce qu'il faut qu'on encourage un petit peu, il fait bon vivre dans le canton de Vaud, vous pouvez et y travailler et y vivre, est-ce que bien ça c'est des choses qui se font un peu naturellement?
Ça c'est naturellement, puisqu'on a fait aussi une étude qui touchait au domaine de la culture, hein. On a fait un zoom sur la culture aujourd'hui, on voit que les gens sont à l'aise et sont bien. Et puis si vous avez 40 000 personnes qui quittent le canton tous les matins et reviennent le soir, et puis 40 000 qui arrivent, ça veut dire que c'est aussi un gage d'une bonne diversification de notre tissu économique. Puis dernier point, ça c'est quelque chose qu'on pourra peut-être pas changer. À l'époque, vraiment, on habitait où on travaillait et où on allait en quelque sorte finir sa vie avec sa famille en vieillissant. Puis après on était enterré quasi dans le cimetière où on avait toujours habité. C'est plus le cas aujourd'hui. Les gens bougent et il faut accepter que la mobilité fait partie intégrante du comportement des gens.
Et puis juste une question un peu générale. Donc aujourd'hui c'est le jubilé de ce Statistique Vaud. Donc justement ces chiffres, ces statistiques, c'est vraiment un outil important au service de la politique vaudoise. Enfin, ça fait que 50 ans guillemets. Puis aujourd'hui finalement on n'imaginerait pas la politique sans cet outil.
Alors depuis Jésus-Christ, hein, depuis qu'on a recensé les gens dans les registres, puisque à l'époque il fallait se déplacer pour noter d'où on venait, où on allait habiter, hein. Les Romains étaient aussi des grands spécialistes de la statistique, mais même avant, hein, les Mésopotamiens, donc voilà. Alors après c'est des balbutiements, c'est vrai que le canton de Vaud a une unité statistique consolidée d'une trentaine de visages depuis 50 ans, progressivement. C'est un outil à disposition du politique pour pouvoir planifier, pour pouvoir se documenter, réfléchir à des nouvelles lois, des nouveaux projets, de faire cohabiter. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est bien portant dans une cellule familiale avec quelqu'un qui commence à avoir des problèmes en lien avec le vieillissement, ben, il faut trouver un EMS, il faut trouver un moyen de placement. Alors voilà, ces chiffres sont utiles aux politiques. Puis après, c'est aussi utile au débat sociétal. Voulons-nous pas avoir plus d'étrangers? Voulons-nous avoir plus de consommation de mazout versus de la production photovoltaïque, et ainsi de suite? Donc les chiffres bruts sont fournis par des professionnels avec déontologie, avec la charte statistique, avec une loi cantonale. Puis après, il appartient aux gens de les regarder. Et puis en statistique, il y a aussi des fois des chiffres qui sont plutôt amusants. On s'amuse des fois à amener quelques chiffres qui permettent de décrisper la lourdeur ou la dureté de certains constats statistiques.
Et quelques chiffres révélés au moment de célébrer ce jubilé de Statistique Vaud. La population vaudoise a crû de 60%. 90% des personnes vivent en zone urbaine contre 68% en 1970. Enfin, le canton de Vaud dénombre 146% de divorces en plus. Et puis le canton de Vaud, toujours, a trouvé cette fois-ci son nouveau chancelier. Il s'agit du politologue de formation Aurélien Buffat. Âgé de 39 ans, il vient d'Orbe et a vécu à Pomy ou encore à Orge avant de s'installer dans la capitale vaudoise. Diplômé de l'Université de Lausanne, son parcours était d'abord académique puisqu'il détient un doctorat en sciences politiques. Il travaille depuis 2013 au poste de collaborateur détaché à la présidence du Conseil d'État. En plus de l'actuelle présidente Nouria Gorité, Aurélien Buffat a notamment travaillé pour l'ancien président Pierre-Yves Maillard. Expérimenté, il l'est, mais pas autant que son prédécesseur Vincent Grandjean, qui a cherché des mois durant la perle rare, une pression que le fraîchement nommé ne nie absolument pas.
C'est d'abord un grand honneur et beaucoup de reconnaissance au Conseil d'État pour la confiance dont il me témoigne pour cette responsabilité qui est très importante, qui est une très belle mission, une très belle fonction.
Votre prédécesseur est resté près d'un quart de siècle à ce poste. Vous allez faire la même chose ?
On verra bien. Ça, de toute façon, on ne peut pas choisir soi-même la durée. C'est sûr que c'est des fonctions où plus on l'occupe, plus on progresse, plus on s'améliore, plus on est utile au Conseil d'État, puisque une des fonctions du chancelier, c'est notamment importante, c'est d'être au fond la mémoire des décisions, notamment pour assurer le suivi des décisions du Conseil d'État. Et donc, plus on dure dans la fonction, mieux c'est. Après, tous les 5 ans, eh bien, il y a des élections. Et c'est une question aussi de confiance entre l'exécutif et son chancelier. Et donc, on ne peut pas dire a priori comme ça le nombre d'années qu'on fera, même si, je me réjouis beaucoup de la fonction. Et puis, la notion de durabilité est effectivement importante dans cette noble fonction.
Aurélien Buffat, qui était au micro de notre consoeur de LFM, il prendra ses fonctions le 1er novembre prochain. Étant donné que son prédécesseur est à la retraite dès aujourd'hui, la direction de la chancellerie d'État sera assurée par Sandra Nicollier, vice-chancelière. Et puis un recomptage des votes aura effectivement lieu demain à Blonay-Saint-Légier. La décision du préfet Roland Berdeau est tombée il y a quelques minutes après audition des arguments des recourants. Pour rappel, le groupement de l'entente Blonay-Saint-Légier a demandé hier un recomptage des bulletins. Le week-end dernier, lors des élections communales, 12% des bulletins pour le conseil communal et 7,6% pour le conseil municipal ont été considérés comme nuls. En plus de cela, des voix ont été rajoutées après la votation. En faisant recours, l'entente n'attendait rien en retour, comme nous l'a confirmé Charles Morard. Il est candidat à la municipalité.
Non, on n'attend rien. D'ailleurs, on était très clair là-dessus. Lorsqu'on a décidé de faire ce recours, on se tire une balle dans le pied. On est à l'entre-deux tours. Si ça se trouve, le recomptage, il ne sera pas dans notre sens, parce qu'on a quand même réussi pour un petit parti à faire rentrer 3 personnes au conseil communal, ce qui n'est pas rien. Simplement, étant donné qu'on a fait notre campagne sur la proximité, la transparence, et puis le fait qu'on voulait réintéresser à la politique et combattre le politique, eh bien, tout simplement, nous étions légitimes et nous devions de faire cette action.
C'était des propos recueillis par Thierry Nicollet. Rendez-vous demain donc pour savoir si le recomptage aura une incidence ou non sur les élections de la future commune fusionnée de Blonay-Saint-Légier. Et puis des travaux vont avoir lieu sur la rivière qui traverse B, les Salines Suisses et la Société des énergies renouvelables de l'Avançon veulent permettre aux truites lacustres de remonter la rivière. Le projet vise à réaménager quatre petites cascades de 40 à 80 cm en les remplaçant par un système de bassin. Des travaux qui présentent trois défis majeurs. Explication de Maël Roth. Il est ingénieur conseil auprès des Salines Suisses.
C'est vraiment tout ce qui est la stabilité des berges et puis des pourtours de la rivière. On a une route à côté. On a des chemins, etc. On doit faire attention à ce qui ne déstabilise pas ces chemins et qu'ils ne tombent pas dans la rivière. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vu qu'on est en zone construite, dans la commune, on a tous les services qui passent, donc l'égout, l'eau potable, l'électricité, les téléphones, etc. Et puis, ces services, en fait, se trouvent à chaque fois en-dessus de ces chutes d'eau et on doit faire très attention à garantir, en fait, la stabilité du lit de la rivière. Et puis, on doit quand même conserver l'utilité initiale de ces chutes d'eau, qui était de détruire l'énergie de la rivière quand elle est en crue, pour éviter d'avoir des dégâts, des inondations plus bas.
Et en parallèle, les porteurs du projet se sont associés au bureau d'expertise biologique BEB-SA, basé à Aigle. Son rôle à lui est de dresser un état des lieux de la zone et d'évaluer un éventuel impact sur la faune piscicole. Éric Morard est biologiste pour BEB-SA. Il expose le constat qui a été dressé.
Les analyses qu'on a faites montrent que le débit qui est conservé dans le cours d'eau, le minimum légal suffisait par rapport à la garantie des différentes fonctions du cours d'eau, notamment la survie des populations de truites dans ce secteur-là où il y avait relativement peu d'enjeux de reproduction, mais c'était plutôt un habitat. Par contre, il a quand même été nécessaire de négocier, de discuter entre les porteurs de projet et les autorités en particulier, mais aussi avec quelques organisations locales de pêcheurs ou de protection de la nature, des mesures de compensation pour favoriser notamment la remontée de la truite lacustre sur un tronçon un peu plus à l'aval de l'Avançon.
Et le rôle du bureau est aussi de servir d'intermédiaire entre les organisations environnementales et les porteurs du projet. Et au final, il n'en ressort que quelques arrangements minimes et peu contraignants. Les travaux doivent débuter à l'automne 2022 pour une durée d'environ un mois. Et puis, comme annoncé par la Confédération, le vaccin Janssen de Johnson & Johnson est disponible en Suisse. Il sera d'ailleurs proposé en Valais dès le vendredi 8 octobre pour toute personne dès 18 ans ne pouvant pas se faire inoculer un vaccin à ARN messager ou refusant les préparations de type ARN messager. C'est ce qu'a indiqué ce matin le canton dans un communiqué. De plus, de nouvelles communes ont entrepris des démarches afin de mettre en place des journées de vaccination pour la population. Ainsi, 5 nouvelles opportunités viennent s'ajouter aux 3 centres de vaccination du canton, dont celui de Colombey. Les capacités en Valais sont ainsi suffisantes pour obtenir un rendez-vous en quelques jours, garantissant ainsi les délais nécessaires en vue d'attendre un schéma vaccinal complet avant les fêtes. Et puis la dernière matinée de la session d'automne du Parlement fédéral aura été celle des adieux. La rumeur annonçait la démission du conseiller fédéral Uli Maurer. Tout indique que ce ne devrait pas être pour aujourd'hui en tout cas. Mais pour la vaudoise Isabelle Chevalet et le fribourgeois Christian Levrin, en revanche, ce fut l'ultime vote ce matin. Serge Jubin les a suivis au moment de franchir la porte du palais fédéral.
Les conseillers des États et nationales ont ainsi rendu hommage à deux personnalités romandes fortes du Parlement fédéral qui ont décidé de faire autre chose au milieu exact de la législature. La verte libérale vaudoise Isabelle Chevalet s'en va. Après 10 ans de conseil national, elle a longtemps été la seule romande de son groupe, une élue de caractère qui a beaucoup fait pour que les choses bougent.
Dernière intervention à la tribune, c'était sur la loi sur le CO2, donc c'est aussi pour moi tout un symbole de clore ces 10 ans d'activité parlementaire ici à Berne. Bah, bien sûr, c'est de l'émotion, mais c'est aussi une page qui se tourne. Moi, je suis quelqu'un qui regarde vers l'avenir, pas vers le passé. J'ai pris ma décision tranquillement, sans pression. Et voilà, je me réjouis de tout ce qui m'attend maintenant. Je suis très fatiguée après ces 3 semaines de session. Je sens que je perdais vraiment la patience. Je n'avais pas envie de devenir cynique et aigrie. Et je crois que je finis encore avec beaucoup de plaisir dans mon cœur, et ça c'est important pour moi.
Isabelle Chevalet partagera son temps entre la Suisse et le Burkina Faso. Elle siégera encore en commission parlementaire ces 2 prochains mois. À partir de la session d'hiver, son fauteuil sera occupé par la première déviante ensuite de la liste Vert libérale vaudoise, Céline Weber-Koppenburg. Au Conseil des États, le socialiste fribourgeois Christian Levrat a lui aussi fait ses adieux après 18 ans de Parlement, 9 dans chaque chambre.
J'ai été très touché par les mots que m'a adressé le président et par l'hommage de mes collègues. Bon, c'est aussi la fin de 18 ans d'un métier que j'ai adoré. La politique, c'est pas un statut, c'est pas une décoration, c'est pas non plus une croix que vous portez, mais ça doit être un plaisir. Et moi, j'ai adoré chacune des journées de ces 18 dernières années.
À partir du 1er décembre, Christian Levrat deviendra président du conseil d'administration de La Poste. Dimanche dernier, les Fribourgeois ont élu Isabelle Chassot du Centre, ancienne conseillère d'État et actuelle chef de l'Office fédéral de la culture, pour succéder au socialiste Levrat au Conseil des États. Le Parlement a encore pris congé ce matin du libéral balois Christophe Hemann, 70 ans, qui estime venu le temps de faire la place aux jeunes, à une femme en l'occurrence, Patricia Falkenstein, présidente du Parti libéral de Bâle-Ville. À 1000 législatures, ce sont ainsi 7 parlementaires élus en 2019 qui s'en sont allés. D'autres départs sont prévus ces prochains mois, chez les romands surtout, avec les candidats au gouvernement de leur canton de Valérie Pilaire-Carrard, Isabelle Moret, Frédéric Bourleau, Michael Buffat. Le vert Daniel Brella s'en ira lui aussi en mars prochain.
Et voilà, c'était un dossier préparé par notre correspondant sous la coupole, Serge Jubin. Et puis la Suisse fera partie d'un groupe international d'utilisateurs de défense Sol Air. Elle pourra profiter ainsi des expériences réalisées par les membres du groupe et éviter certains problèmes connus. Le Conseil fédéral a approuvé les modifications nécessaires de cette convention qui entrera en vigueur dès que les États membres l'auront ratifiée. Et parmi ces États, justement, de nombreux pays européens comme l'Allemagne, la Norvège ou encore le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis. Puis à l'étranger, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné hier à un an de prison ferme, reconnu coupable dans le dossier dit Big Malion sur le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Une décision dont il va faire appel. On rappelle, il y a 7 mois, il était devenu le premier ancien président de la 5e République fondée par le général de Gaulle en 1958 à être condamné à une peine de prison ferme, 3 ans, dont 2 avec sursis pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Et puis les États-Unis et la Russie se sont retrouvés hier à Genève pour leur dialogue sur le désarmement et plusieurs autres questions sécuritaires. Comme en juillet, cette seconde rencontre a eu lieu dans des conditions très secrètes. La délégation américaine était emmenée par le numéro 2 du département d'État, Wendy Sherman, et celle de la Russie était pilotée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Dans leur déclaration commune, les deux pays ont annoncé le lancement de 2 groupes de travail, l'un sur les objectifs pour un futur désarmement et le second sur les capacités et actions aux effets importants. En course à pied, Maud Matisse sera la grande favorite dimanche de la 87e édition de Mort à Fribourg. Vainqueur de la célèbre épreuve fribourgeoise en 2017 et en 2018, la tête de long visera la passe de Troyes ce week-end. Mais pour atteindre cet objectif cette année, la Chablaisienne n'a pas pu s'appuyer sur la même préparation. Au cours des derniers mois, elle a plutôt misé sur des courses en montagne, plus longues et plus accidentées. Reste que certains entraînements spécifiques pourraient tout de même être un atout dimanche sur le parcours de 17,17 km vallonné entre Mort et Fribourg. On écoute les précisions de Maud Matisse.
En tant que coureuse de montagne, c'est la montée de la sauna où je me sens le plus à l'aise. Donc si je devais être au coude à coude, c'est ici que j'attaquerais. Et puis après, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, conserver l'avance jusqu'à la fin.
En 2017, lors de votre première victoire, vous vous étiez approché de cette barre symbolique de l'heure de course. Vous aviez failli descendre en dessous de cette heure de course. Est-ce que ça fait aussi partie des objectifs cette année ?
Cette année, ça va être difficile puisque j'ai pas la même vitesse, j'ai pas le même entraînement. Mais on sait jamais, il peut peut-être avoir une bonne surprise avec l'entraînement de montagne, même si j'y crois pas trop. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de mes meilleurs chronos, une 0-2 peut-être, en espérant qu'il n'y ait pas trop de minutes en plus, pour que ça veut dire que je suis en bonne forme.
Voilà, c'était Maud Matisse au micro de Julien Traxel. Après Mora Fribourg, la coureuse de long mettra le cap sur la finale des Golden Trails World Series. Ce rendez-vous est prévu le samedi 16 octobre aux îles Canaries en Espagne. Et puis en gymnastique, Giulia Steingruber dit stop. La Saint-Galloise la plus titrée de l'histoire a annoncé sa retraite sportive ce matin. Son palmarès force le respect. Elle a obtenu du bronze tant aux Jeux Olympiques qu'aux Championnats du Monde, ainsi que 6 titres européens. Ses dernières saisons ont été perturbées par diverses blessures, ce qui a précipité la fin de sa carrière.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec RTB, entreprise de construction Aviona.
Pour aujourd'hui, Météo Suisse nous annonce un temps bien ensoleillé avec une augmentation de la nébulosité en fin de journée et quelques averses éparses possibles la nuit prochaine. Les températures pour aujourd'hui, 8 à 19 degrés en pleine Chablaisienne, de 5 à 19 degrés en 1000 mètres et de 7 à 12 degrés à 2000 mètres. Et pour demain et dimanche, quelques bancs de nuages bas résiduels le matin, sinon temps passagèrement assez ensoleillé et une nouvelle augmentation de la nébulosité en cours d'après-midi. Les températures pour demain, de 11 à 20 degrés en pleine Chablaisienne, de 9 9 à 18 degrés à 1000 mètres et de 6 à 11 degrés à 2000 mètres. La météo complète est à 6 jours sur notre site radiochablais.ch ou la nouvelle application mobile Radio Chablais. Et vous retrouvez tout à l'heure à 13h Axel et Stéphane et Cyril à 16h également. Restez bien sur Radio Chablais en direct de la Foire du Valais.